Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, chapitre 7, le colportage, Samson à Berne, Samson à Bade, le doyen de Bremgarten, le jeune Henri Bullinger, Samson et le doyen, combats intérieurs de Zwingli, Zwingli contre les indulgences, Samson renvoyé. L'occasion de déployer son zèle dans une vocation nouvelle ne se fit pas longtemps attendre. Samson, le fameux marchand d'indulgence, s'approchait alors à pas lents de Zurich. Ce misérable trafiquant était arrivé de Schwyg à Zug le 20 septembre 1518 et y était resté 3 jours. Une foule immense s'était rassemblée autour de lui. Les plus pauvres étaient les plus ardents et empêchaient ainsi les riches de venir. Ce n'était pas le compte du moine. Aussi l'un de ses serviteurs se mit-il à crier à la populace « Bonnes gens, ne vous pressez pas si fort, laissez venir ceux qui ont de l'argent, nous chercherons ensuite à contenter ceux qui n'en ont pas. » De Zug, Samson et sa bande se rendirent à Lucerne, de Lucerne à Underwald, puis traversant des Alpes fertiles, de riches vallées, passant au pied des glaces éternelles de l'Oberland, et exposant dans ces sites les plus beaux de la Suisse, leurs marchandises romaines, ils arrivèrent près de Berne. Le moine reçut d'abord défense d'entrer dans la ville, mais il parvint enfin à s'y introduire au moyen d'intelligence qu'il y entretenait, et étala dans l'église de Saint-Vincent. Là, il se mit à crier plus fort que jamais. « Voici, disait-il aux riches, des indulgences sur parchemin pour une couronne. Voilà, disait-il aux pauvres, des absolutions sur papier ordinaire pour 2 bats. » Un jour, un chevalier célèbre, Jacques de Stein, se présenta à lui, caracolant sur un cheval gris pommelé. Le moine admirait fort le cheval. « Donnez-moi, dit le chevalier, une indulgence pour moi, pour ma troupe, forte de 500 hommes, pour tous mes vassaux de Belpe et pour tous mes ancêtres. Je vous offre en échange mon cheval gris pommelé. » C'était demander beaucoup pour un cheval. Cependant, le coursier plaisait aux franciscains. On tomba d'accord, la bête entra dans l'écurie du moine, et toutes ses âmes furent déclarées par lui exemptes à jamais de l'enfer. Un autre jour, un bourgeois obtint de lui pour 13 florins une indulgence en vertu de laquelle son confesseur était autorisé à l'absoudre, entre autres choses, de toute espèce de parjure. On avait tant de respect pour Samson que le conseiller de Mai, homme âgé et d'un esprit éclairé, ayant dit contre lui quelques mots, fut obligé de demander pardon au moine orgueilleux en se mettant à genoux devant lui. C'était le dernier jour. Un son bruyant de cloche annonçait à Berne le départ du moine. Samson était dans l'église, debout sur les marches du grand autel. Le chanoine Henri Lupulus, autrefois maître de Zwingli, lui servait d'interprète. « Quand le loup et le renard se mettent ensemble en campagne, dit le chanoine Anschelm en se tournant vers le Schultheid de Watteville, « le plus sûr pour vous, gracieux Seigneur, est de mettre promptement en sûreté vos brebis et vos oies. » Mais le moine se souciait peu de ses jugements, qui d'ailleurs ne parvenaient pas à ses oreilles. « Tombez à genoux, dit-il à la foule superstitieuse. Récitez 3 pater, 3 ave maria, et vos âmes seront immédiatement aussi pures qu'au moment de leur baptême. » Alors tout le peuple s'agenouilla. Puis, voulant se surpasser lui-même, Samson s'écria « Je délivre des tourments du purgatoire et de l'enfer tous les esprits des Bernois trépassés, quel qu'ait été le genre et le lieu de leur mort. » Ces bateleurs gardaient, comme ceux des foires, leur plus beau coup pour le dernier. Samson s'achemina chargé d'argent vers Zurich en traversant l'Argovie et Bade. À mesure qu'il avançait, le moine, dont l'apparence était si chétive, en passant les Alpes, marchait avec plus d'éclat et d'orgueil. L'évêque de Constance, irrité de ce qu'il n'avait pas voulu faire légaliser par lui ses bulles, avait défendu à tous les curés de son diocèse de lui ouvrir leurs églises. À Bade, néanmoins, le curé n'osa s'opposer longtemps à son trafic. Le moine redoubla d'effronterie. Faisant à la tête d'une procession le tour du cimetière, il semblait fixer ses regards sur quelque objet dans l'air, tandis que ses acolytes chantaient l'hymne des morts et, prétendant voir les âmes voler du cimetière dans le ciel, il s'écriait « Esce volante !» Voyez comme elles volent. Un jour, un homme de l'endroit se jette dans la tour de l'église et monte au clocher. Bientôt, une multitude de plumes blanches, voltigeant dans les airs, recouvre la procession étonnée. « Voyez comme elles volent !» s'écriait le plaisant de Bade en secouant un coussin du haut de la tour. Beaucoup de gens se mirent à rire. Samson, irrité, ne s'apaisa qu'en apprenant que cet homme avait quelquefois la tête dérangée. Il sortit de Bade tout honteux. Continuant sa route, il arriva vers la fin de février 1519 à Bremgarten, où le Schultheiz et le second curé de la ville qu'il avait vu à Bade l'avaient supplié de se rendre. Personne n'avait dans tout ce pays plus de réputation que le doyen Bullinger de Bremgarten. Cet homme, peu éclairé sur les erreurs de l'Église et sur la parole de Dieu, mais ouvert, plein de zèle, éloquent, bienfaisant envers les pauvres et prêt à rendre service aux petits, était aimé de tout le monde. Il avait, dans sa jeunesse, contracté une union de conscience avec une fille d'un conseiller de l'endroit. C'était la coutume de ceux d'entre les prêtres qui ne voulaient pas vivre dans la dissolution. Anna lui avait donné 5 fils, et cette nombreuse famille n'avait nullement diminué la considération dont le doyen jouissait. Il n'y avait pas dans toute la Suisse une maison plus hospitalière que la sienne. Grand ami de la chasse, on le voyait entouré de 10 ou 12 chiens et accompagné des seigneurs de Hallwyl, de l'abbé de Muri, des patriciens de Zurich, battre les campagnes et les forêts d'alentour. Il tenait table ouverte, et nul de ses convives n'était plus gai que lui. Lorsque les députés à la diète se rendaient à Bade, en passant par Bremgarten, il ne manquait pas de s'asseoir à la table du doyen. « Bullinger, disait-on, tient court comme le plus puissant seigneur. » Les étrangers remarquaient dans cette maison un enfant d'une figure intelligente. Henri, l'un des fils du doyen, avait dès ses premières années couru bien des périls. Un jour, atteint de la peste, on allait le mettre en terre, quand quelques signes de vie rendirent la joie à ses parents. Un autre jour, un vagabond l'ayant attiré par des caresses, l'enlevait à sa famille, lorsque des passants le reconnurent et le délivrèrent. À 3 ans, il savait déjà l'oraison dominicale et le symbole des apôtres, et se glissant dans l'église, il montait dans la chaire de son père, s'y posait avec gravité et disait de toutes les forces de sa voix « Je crois en Dieu le Père et ce qui suit ». À 12 ans, ses parents l'envoyèrent à l'école latine d'Emmerich, le cœur rempli de crainte, car ces temps étaient dangereux pour un jeune garçon sans expérience. On voyait souvent des étudiants, si la règle d'une université leur paraissait trop sévère, quitter par troupe l'école, entraîner avec eux des enfants et camper dans les bois d'où ils envoyaient mendier les plus jeunes d'entre eux, ou bien se jeter les armes à la main sur les passants et les dépouiller et consumer ensuite dans la débauche le fruit de leur rapine. Henri fut heureusement gardé du mal dans ces lieux éloignés. Comme Luther, il gagna sa vie en chantant devant les portes des maisons, car son père voulait qu'il apprît à vivre de ses propres moyens. Il avait 16 ans quand il ouvrit un Nouveau Testament. « J'y trouvais, dit-il, tout ce qui est nécessaire au salut de l'homme, et dès lors, je m'attachais à ce principe qu'il faut suivre uniquement la Sainte Écriture et rejeter toutes les additions humaines. Je n'en crois ni les pères ni moi-même, mais j'explique l'Écriture par l'Écriture, sans rien ajouter et sans rien ôter. » Dieu préparait ainsi ce jeune homme qui devait un jour succéder à Zwingli. Il est l'auteur de la chronique que nous citons souvent. Ce fut vers ce temps que Samson arriva à Bremgarten avec toute sa suite. Le courageux doyen, que cette petite armée italienne n'épouvantait pas, défendit au moine de débiter chez lui sa marchandise. Le Schultheiz, le conseiller de la ville et le second pasteur, ami de Samson, étaient réunis dans une chambre de l'auberge où celui-ci était descendu et entouré, tout déconcerté, le moine impatient. Le doyen arriva. « Voici les bulles du pape, lui dit le moine. Ouvrez votre église. » Le doyen. Je ne permettrai pas qu'au moyen de lettres non authentiques, car l'évêque ne les a pas légalisées, on vide la bourse de mes paroissiens. Le moine, d'un ton solennel. Le pape est au-dessus de l'évêque. Je vous défends de priver votre troupeau d'une grâce si éclatante. Le doyen. Dût-il m'en coûter la vie, je n'ouvrirai pas mon église. Le moine, avec indignation. prêtre rebelle, au nom de notre très saint Seigneur le Pape, je prononce contre toi la grande excommunication et je ne t'absoudrai pas que tu n'aies racheté au prix de 300 ducats une hardiesse si inouïe. » Le doyen, tournant le dos et se retirant. « Je saurai répondre devant mes juges légitimes. Quant à toi et à ton excommunication, je n'en ai que faire. » Le moine, hors de lui. « Impudente bête ! Je vais à Zurich, et là, je porterai ma plainte devant les députés de la Confédération. » Le doyen. « Je puis y paraître aussi bien que toi, et de ce pas, je m'y rends. » Pendant que ces choses se passaient à Bremgarten, Zwingli, qui voyait l'ennemi s'approcher peu à peu de lui, prêchait avec force contre les indulgences. Le vicaire Faber de Constance l'encourageait, lui promettait l'appui de l'évêque. « Je sais, disait Samson en marchant vers Zurich, que Zwingli parlera contre moi, mais je lui fermerai la bouche. » Zwingli sentait en effet trop vivement la douceur du pardon de Christ pour ne pas attaquer l'indulgence de papier de ces hommes téméraires. Souvent, il tremblait comme Luther à cause du péché, mais il trouvait dans le Sauveur la délivrance de ses craintes. Cet homme modeste mais fort avançait dans la connaissance de Dieu. « Lorsque Satan, disait-il, m'effraie, en me criant « Tu ne fais pas ceci ou cela, et pourtant Dieu le commande !» Aussitôt, la douce voix de l'Évangile me console en me disant « Ce que tu ne peux faire, et certainement tu ne peux rien, Christ le fait et l'accomplit. » Oui, continuait le pieux évangéliste, lorsque mon cœur est angoissé à cause de mon impuissance et de la faiblesse de ma chair, mon esprit se ranime à l'ouïe de cette joyeuse nouvelle. Christ est ton innocence, Christ est ta justice, Christ est ton salut. Tu n'es rien, tu ne peux rien. Christ est l'alpha et l'oméga, Christ est la proue et la poupe, Christ est tout, il peut tout. Toutes les choses créées et celles de tous ceux qui paraîtront jamais comme justes devant le trône de Dieu. En présence de telles vérités, les indulgences tombaient d'elles-mêmes. Aussi Zwingli ne craignait-il pas de les attaquer. « Aucun homme, disait-il, ne peut remettre les péchés. Christ seul, qui est vrai Dieu et vrai homme, en a le pouvoir. Va, achète des indulgences, mais sois certain que tu n'es nullement absous. Ceux qui, pour de l'argent, vendent la rémission des péchés sont les compagnons de Simon le magicien, les amis de Balaam et les ambassadeurs de Satan. » Le doyen Bullinger, encore tout échauffé de sa conversation avec le moine, arriva avant lui à Zurich. Il venait porter plainte à la diète contre ce marchand déhonté et contre son trafic. Des envoyés de l'évêque s'y trouvaient pour le même motif. Il fit cause commune avec eux. Tous lui promirent de l'appuyer. L'esprit qui animait Zwingli soufflait sur cette ville. Le Conseil d'État résolut de s'opposer à ce que le moine entrât dans Zurich. Samson était arrivé dans les faubourgs et descendu dans une auberge. Déjà, il avait un pied à l'étrier pour faire son entrée, lorsque des députés du Conseil vinrent, en lui offrant le vin d'honneur comme un envoyé du pape, lui annoncer qu'il pouvait se passer de paraître dans Zurich. « J'ai quelque chose à communiquer à la diète au nom de sa sainteté, » répliqua le moine. C'était une ruse. On résolut cependant de l'admettre. Mais comme il ne parla que de ses bulles, on le renvoya après lui avoir fait retirer l'excommunication prononcée contre le doyen de Bremgarten. Il sortit plein de colère et bientôt le pape le rappela en Italie. Un char, traîné par 3 chevaux et chargé de l'argent que ses mensonges avaient enlevé aux pauvres, le précédait sur ses chemins escarpés du Saint-Gothard qu'il avait traversé 8 mois auparavant, pauvre, sans apparence et chargé seulement de quelques papiers. La diète helvétique montra alors plus de résolution que la diète germanique. C'est qu'il n'y siégeait pas des évêques et des cardinaux. Aussi le pape, privé de ses soutiens, en agissait-il plus doucement avec la Suisse qu'avec l'Allemagne. Au reste, l'affaire des indulgences, qui joua un si grand rôle dans la réformation de l'Allemagne, n'est qu'un épisode dans la réformation suisse. Thank you. Livre 8, chapitre 8. Les bains de Pfeffer. Le moment de Dieu. La grande mort. Zwingli attaqué de la peste. Ses adversaires. Ses amis. Convalescence. Joie générale. Effet du fléau. Myconius à Lucerne. Oswald encourage Zwingli. Zwingli à Bâle. Capiton appelé à Mayence. Édion à Bâle. Un fils dénaturé. On se prépare au combat. Zwingli ne s'épargnait pas. Tant de travaux demandaient un peu de relâche. On lui ordonna de se rendre au bain de Pfeffer. « Ah, dit-il en se séparant de lui, Erus, l'un des disciples qu'il avait dans sa maison et qui exprimait ainsi la pensée de tous ceux qui connaissaient Zwingli, quand j'aurai sans langue, sans bouche, une voix de fer, comme dit Virgile, ou plutôt l'éloquence de Cicéron, pourrais-je dire tout ce que je vous dois et tout ce que me coûte cette séparation ?» Cependant, Zwingli partit. Il arriva à Pfeffer par cette gorge épouvantable que forme l'impétueux torrent de la Jamina. Il descendit dans ce gouffre infernal, comme parlait Daniel l'ermite, et parvint à ses bains perpétuellement ébranlés par la chute du torrent et arrosés par la poussière humide des ondes brisées. On avait besoin de flambeaux en plein midi dans le logis où Zwingli habita. On assurait même autour de lui que d'affreux spectres y apparaissaient quelquefois dans les ténèbres. Et cependant, encore là, il trouva l'occasion de servir son maître. Son affabilité gagna le cœur de plusieurs malades. De ce nombre fut un poète célèbre, Philippe Ingentinus, professeur à Fribourg, en Brisgau, qui se montra dès lors plein de zèle pour la Réformation. Dieu veillait à son œuvre et voulait la hâter. Le défaut de Zwingli était dans sa force. Fort de corps, fort de caractère, fort de talent, il devait voir toutes ses forces brisées pour devenir un instrument tel que Dieu les aime. Il lui manquait un baptême, celui de l'adversité, de l'infirmité, de la faiblesse et de la douleur. Luther l'avait reçu dans ce temps d'angoisse où il faisait retentir de cris perçants la cellule et les longs corridors du couvent d'Erfurt. Zwingli devait le recevoir en se trouvant en contact avec la maladie et la mort. Il y a pour les héros du monde, les Charles XII, les Napoléons, un moment qui décide de leur carrière et de leur gloire. C'est celui où, tout à coup, leur force se révèle à eux. Un moment analogue existe dans la vie des héros selon Dieu, mais il est en un sens contraire. C'est celui où ils viennent à reconnaître leur impuissance et leur néant. Dès lors, ils reçoivent d'en haut la force de Dieu. Une œuvre telle que celle dont Zwingli devait être l'organe ne s'accomplit jamais dans la force naturelle de l'homme. Elle se flétrirait aussitôt comme un arbre que l'on plante dans tout son développement et toute sa vigueur. Il faut qu'une plante soit faible pour qu'elle prenne racine et qu'un grain meure dans la terre pour qu'il porte beaucoup de fruits. Dieu conduisit Zwingli et avec lui l'œuvre dont il était l'espoir aux portes du sépulcre. C'est parmi les ossements, les ténèbres et la poudre de la mort que Dieu se plaît à prendre les organes par le moyen desquels il veut répandre sur la terre la lumière, la régénération et la vie. Zwingli était caché entre les immenses rochers qui enseignent le torrent furieux de la Jamina, lorsque tout à coup, il apprit que la peste, ou comme on l'appelait, la grande mort, était à Zurich. Terrible, elle éclata en août, le jour de la Saint-Laurent, dura jusqu'à la Chandeleur et moissonna 2500 personnes. Les jeunes gens qui demeuraient chez Zwingli étaient aussitôt partis, d'après les instructions qu'il avait laissées. Sa maison était vide, mais c'était pour lui le moment d'y retourner. Il quitta précipitamment Pfeffer et reparut au sein de son troupeau, décimé par la maladie. Il renvoya aussitôt à Wildhaus son jeune frère André, qui avait voulu l'attendre, et dès ce moment, il se consacra tout entier aux victimes de cet affreux fléau. Chaque jour, il annonçait aux malades Christ et ses consolations. Ses amis, joyeux de le voir sain et sauf au milieu de tant de traits mortels, éprouvaient pourtant un secret effroi. « Faites le bien », lui écrivait de Bâle Conrad Brunner, qui mourut lui-même de la peste quelques mois plus tard. « Mais en même temps, souvenez-vous de prendre soin de votre vie. » Il était trop tard. Zwingli était atteint de la peste. Le grand prédicateur de la Suisse fut couché sur un lit dont il devait peut-être ne se relever jamais. Il rentra en lui-même et porta en haut ses regards. Il savait que Christ lui avait donné un sûr héritage et épanchant les sentiments de son cœur dans un chant rempli d'onction et de simplicité, dont, ne pouvant rendre le langage antique et naïf, nous cherchons au moins à reproduire le rythme et les expressions littérales, il s'écria « Ma porte s'ouvre et c'est la mort. Ta main me couvre, mon Dieu, mon fort. Ô Jésus, lève ton bras percé, brise le glaive qui m'a blessé. Mais si mon âme en son midi, ta voix réclame, Christ, me voici. Ah, que je meure, je suis à toi, et ta demeure s'ouvre à ma foi. » Cependant, la maladie augmente. Ses amis contemplent avec désolation cet homme, l'espérance de la Suisse et de l'Église, près de devenir la proie du sépulcre. Ses sens et ses forces l'abandonnent. Son cœur s'effraie, mais il trouve encore quelque force pour se tourner vers Dieu et s'écrie « Mon mal s'enflamme, console-moi. Le corps et l'âme fondent d'effroi. La mort s'apprête, je perds mes sens. Ma voix s'arrête, Christ, il est temps. » Satan m'enlace pour m'engloutir, sa main m'embrasse, vais-je périr? Rien ne me touche, ses traits, sa voix, car je me couche devant ta croix. » Le chanoine Hoffmann, sincère dans sa foi, ne pouvait supporter l'idée de voir mourir Zwingli dans les erreurs qu'il avait prêchées. Il se rendit vers le prévôt du chapitre. « Pensez, lui dit-il, au danger de son âme. N'appelle-t-il pas non-valeur et fantasque tous les docteurs qui ont enseigné depuis 380 ans et plus ? Alexandre de Halle, Saint Bonaventure, Albert le Grand, Thomas d'Aquin et tous les canonistes, ne prétend-il pas que leurs doctrines sont des rêves qu'ils ont faits dans leur capuchon entre les murs de leur cloître ? Ah, il eût mieux valu pour la ville de Zurich que Zwingli eût ruiné pour plusieurs années nos vendanges et nos moissons. Maintenant, le voilà à la mort. Je vous en supplie, sauvez sa pauvre âme. » Il paraît que le prévôt, plus éclairé que le chanoine, ne crut pas nécessaire de convertir Zwingli à Saint Bonaventure et au Grand Albert. On le laissa en paix. Le trouble était dans toute la ville. Tous les croyants criaient à Dieu nuit et jour et lui demandaient de rétablir leur fidèle pasteur. La terreur avait passé de Zurich aux montagnes du Toggenburg. La peste était aussi arrivée sur ces hauteurs. 7 ou 8 personnes avaient succombé dans le village. Parmi elles était un domestique de Nicolas, frère de Zwingli. On ne recevait point de lettres du réformateur. « Apprends-moi, lui écrivit le jeune André Zwingli, en quel état tu te trouves, ô frère bien-aimé. L'abbé et tous nos frères te saluent. » Il paraît que le père et la mère de Zwingli étaient déjà morts, puisqu'il n'est point ici question d'eux. La nouvelle de la maladie de Zwingli, et même le bruit de sa mort, coururent en Suisse et en Allemagne. « Ah ! » s'écriant Hédion avec larmes, « le salut de la patrie, la trompette de l'Évangile, le magnanime héros de la vérité est frappé de mort, à la fleur et pour ainsi dire, au printemps de son âge. » Quand la nouvelle que Zwingli avait succombé arriva à Bâle, toute la ville retentit de gémissements et de deuil. Cependant, l'étincelle de vie qui restait encore à Zwingli se ranime. Bien que tous ses membres soient encore frappés de langueur, son âme a l'inébranlable conviction que Dieu l'appelle à replacer sur le chandelier éteint de l'Église le flambeau de sa parole. La peste a abandonné sa victime. Zwingli s'écrie avec émotion « Mon Dieu, mon Père, tu m'as guéri, sur cette terre me revoici. Plus ne me touche l'iniquité, mais par ma bouche seule soit chantée. L'heure incertaine viendra sur moi, peut-être pleine de plus d'effroi, mais que m'importe, toujours joyeux, mon joug je porte jusqu'aux cieux. » À peine Zwingli pouvait-il tenir la plume, c'était au commencement de novembre, qu'il écrivit à sa famille. Ce furent des transports indicibles de joie, surtout pour son jeune frère André, qui mourut lui-même l'année suivante de la peste, et sur la mort duquel Ulrich versa des larmes et poussa des cris comme une femme ne l'eût pas fait, dit-il lui-même. À Bâle, Conrad Brunner, ami de Zwingli, et Bruno Amerbach, fameux imprimeur, jeunes l'un et l'autre, étaient après 3 jours de maladie descendus au tombeau. On croyait dans cette ville que Zwingli avait aussi succombé. L'université était dans le deuil. Celui que Dieu aime, disait-on, est rendu accompli à la fleur de sa vie. Mais quelle joie lorsque Collinus, étudiant lucernois, et ensuite un négociant de Zurich, apportèrent la nouvelle que Zwingli avait échappé aux redoutables avenues du sépulcre. Le vicaire de l'évêque de Constance lui-même, Jean Faber, cet ancien ami de Zwingli, qui fut plus tard son plus violent adversaire, lui écrivit « Ô mon bien-aimé Ulrich, quelle joie j'éprouve en apprenant que tu as échappé à la gueule de la cruelle mort. Si tu es en danger, la République chrétienne est menacée. Le Seigneur a voulu, par des épreuves, te pousser à rechercher davantage la vie éternelle. » C'était en effet le but pour lequel Dieu avait éprouvé Zwingli, et ce but fut atteint, mais autrement que ne le pensait Faber. Cette peste de 1519, dont les ravages furent si grands dans le nord de la Suisse, fut dans la main de Dieu un puissant moyen de conversion pour un grand nombre d'âmes. Mais elle n'eut sur personne une influence aussi grande que sur Zwingli. L'évangile, qui jusqu'alors avait trop été pour lui une simple doctrine, devint une grande réalité. Il se releva des profondeurs du sépulcre avec un cœur nouveau. Son zèle devint plus actif, sa vie plus sainte, sa prédication plus libre, plus chrétienne, plus puissante. Cette époque fut celle de l'entier affranchissement de Zwingli. Dès lors, il se consacra tout entier à Dieu. Mais en même temps que le réformateur, la réforme de la Suisse reçut une vie nouvelle. La verge de Dieu, la grande mort, en passant sur toutes ses montagnes et descendant dans toutes ses vallées, donna quelque chose de plus sain au mouvement qui s'y opérait. La réforme plongea, comme Zwingli, dans les eaux de la douleur et de la grâce et en ressortit plus pure et plus vivante. C'est un grand jour dans la marche de Dieu pour la régénération de ce peuple. Zwingli puisa de nouvelles forces dont il sentait si fort le besoin dans la communion de ses amis. Une vive affection l'unissait surtout à Myconius. Ils marchaient appuyés l'un sur l'autre comme Luther et Mélenchon. Oswald était heureux à Zurich. Sa position y était, il est vrai, gênée, mais les vertus de sa modeste épouse l'adoucissaient. C'est d'elle que Glaréan disait « Si je rencontrais une jeune fille qui lui ressembla, je la préférerais à la fille d'un roi. » Cependant, une voix fidèle venait souvent troubler la douce amitié de Zwingli et de Myconius. C'était celle du chanoine Xyloctec qui, appelant Oswald de Lucerne, le sommait de revenir dans son pays. « Zurich n'est pas ta patrie, lui disait-il, c'est Lucerne. Tu dis que les Uquirois sont tes amis, j'en conviens, mais sais-tu ce que l'étoile du soir t'apportera? Serre ta patrie, je te le conseille, je t'en conjure, et si je le puis, je te le commande. » Xyloctec, ajoutant l'action aux paroles, fit nommer Myconius maître de l'école collégiale de Lucerne. Alors Oswald n'hésita plus. Il vit le doigt de Dieu dans cette nomination, et, quelque grand que fût le sacrifice, il se résolut de le faire. Qui sait s'il ne sera pas un instrument du Seigneur pour faire parvenir la doctrine de la paix dans la belliqueuse Lucerne? Mais quelle séparation que celle de Zwingli et de Myconius! Ils se quittèrent en larmes. « Ton départ, écrivait peu de temps après Ulrich à Oswald, a porté à la cause que je défends une aussi grande atteinte que celle dont est frappée une armée rangée en bataille quand l'une de ses ailes est détruite. Ah, je comprends maintenant tout ce qu'a pu mon Myconius, et combien de fois, sans que je le sache, il a soutenu la cause de Christ. » Zwingli sentait d'autant plus la privation de son ami que la peste l'avait laissé dans un état de grande faiblesse. « Elle a diminué ma mémoire, écrivait-il le 30 novembre 1519, et épuisé mes esprits. À peine convalescent, il avait repris tous ses travaux. Mais, dit-il, souvent en prêchant, je perds le fil du discours. Tous mes membres sont frappés de langueur, et je suis presque semblable à un mort. » Outre cela, l'opposition de Zwingli aux indulgences avait excité la colère de leurs partisans. Oswald fortifiait son ami par les lettres qu'il lui écrivait de Lucerne. Le Seigneur ne donnait-il pas, en ce moment même, des gages de son secours dans la protection dont il entourait en Saxe l'athlète puissante qui remportait sur Rome de si grandes victoires? « Que penses-tu, disait Myconius à Zwingli, de la cause de Luther? Pour moi, je n'ai aucune crainte, ni pour l'Évangile, ni pour lui. Si Dieu ne protège pas sa vérité, qui la protégera? Tout ce que je demande au Seigneur, c'est de ne pas retirer sa main de ceux qui n'ont rien de plus cher que son Évangile. Continue comme tu as commencé, et une récompense abondante te sera décernée dans les cieux. » Un ancien ami vint consoler Zwingli du départ de Myconius. Bunsli, qui avait été à Bâle le maître d'Ulrich et qui avait succédé au doyen de Wessen, oncle du réformateur, arriva à Zurich dans la première semaine de l'an 1520, et Zwingli et lui formèrent le projet d'aller ensemble voir à Bâle leurs amis communs. Le séjour de Zwingli à Bâle porta des fruits. « Oh, mon cher Zwingli, lui écrivait plus tard Jean Glotter, jamais je ne vous oublierai. Ce qui me lie à vous, c'est cette bonté avec laquelle, pendant votre séjour à Bâle, vous m'êtes venu voir Moi, petit maître d'école, homme obscur, sans science, sans mérite et de basse condition. Ce qui me gagne, c'est cette élégance de mœurs, cette douceur indicible par laquelle vous subjuguez tous les cœurs et même les pierres, si je puis ainsi dire. Mais les anciennes amies de Zwingli profitèrent plus encore de son séjour. Capiton, Edion, d'autres encore, furent électrisés par sa parole puissante. Et le premier, commençant d'en bas l'œuvre que Zwingli faisait à Zurich, se mit à exposer l'évangile selon saint Matthieu devant un auditoire qui ne cessait de s'accroître. La doctrine de Christ pénétrait et enflammait les cœurs. Le peuple la recevait avec joie et saluait avec acclamation la renaissance du christianisme. C'était l'aurore de la réformation. Aussi vit-on bientôt se former contre Capiton une conjuration de prêtres et de moines. Ce fut alors que le jeune cardinal archevêque de Mayence, Albert, désireux d'attacher à sa personne un homme aussi savant, l'appela à sa cour. Capiton, voyant les difficultés qu'on lui suscitait, accepta cette vocation. Le peuple s'émut, son indignation se porta contre les prêtres et il y eut du tumulte dans la ville. On pensa à Edion pour le remplacer, mais les uns objectaient sa jeunesse, les autres disaient « il est son disciple ». « La vérité mort, dit Edion, il n'est pas avantageux d'écorcher en la disant les oreilles trop délicates. N'importe, rien ne m'éloignera du droit chemin. » Les moines redoublèrent d'efforts. « Ne croyez pas, s'écriait-il du haut de la chaire, ceux qui disent que le sommaire de la doctrine chrétienne se trouve dans l'Évangile et dans saint Paul. Scott a été plus utile au christianisme que saint Paul lui-même. Tout ce qui a jamais été dit et imprimé de savants est volé à Scott. Ce que des gens avides de gloire ont pu faire au-delà, c'est d'y mêler quelques mots grecs et hébreux pour obscurcir toute la matière. » Le tumulte croissait. Il était à craindre que, quand Capiton serait parti, l'opposition ne devint plus puissante. « Je serai presque seul, pensait Edion. Moi, faible et misérable, seul à lutter avec ces monstres redoutables. » Aussi invoquait-il le secours de Dieu et écrivait-il à Zwingli « Enflammez mon courage par des lettres fréquentes. La science et le christianisme se trouvent maintenant entre l'enclume et le marteau. Luther vient d'être condamné par les universités de Louvain et de Cologne. Si jamais il eut pour l'Église un danger imminent, c'est à cette heure. » Capiton quitta Bâle pour Mayence le 28 avril et Edion le remplaça. Non content des assemblées publiques qui avaient lieu dans le temple et où il continua l'explication de saint Matthieu, il se proposa dès le mois de juin, ainsi qu'il l'écrivit à Luther, d'avoir dans sa maison des réunions particulières pour donner une instruction évangélique plus intime à ceux qui en sentaient le besoin. Ce moyen puissant d'instruire dans la vérité et de vivifier l'intérêt et le zèle des fidèles pour les choses divines ne pouvait manquer, alors comme toujours, de susciter l'opposition, soit des gens du monde, soit de prêtres dominateurs qui, les uns et les autres, quoique par des motifs différents, veulent également que l'on adore Dieu que dans l'enceinte de certaines murailles. Mais Edion fut invincible. À la même époque où il formait à Bâle cette bonne résolution, arrivait à Zurich l'un de ces caractères qui jaillissent d'ordinaire du sein des révolutions comme une impure écume. Le sénateur Grebel, homme fort considéré dans Zurich, avait un fils nommé Conrad, jeune homme de talent remarquable, ennemi impitoyable de l'ignorance et de la superstition, qu'il attaquait par de sanglantes satires, bruyant, emporté, mordant et amer dans ses discours, sans affection naturelle, adonné à la débauche, parlant toujours et hautement de son innocence et ne sachant voir que mal chez autrui. Nous parlons ici de lui parce que plus tard, il doit jouer un triste rôle. À cette époque, Vadian épousait une sœur de Conrad. Celui-ci, qui étudiait à Paris, où son inconduite le rendait incapable de marcher, désireux d'assister aux noces, tomba tout à coup, vers le commencement de juin, au milieu de sa famille. Son pauvre père reçut cet enfant prodigue avec un doux sourire, sa tendre mère avec des larmes. La tendresse de ses parents ne changea point ce cœur dénaturé. Sa bonne et malheureuse mère ayant été plus tard près de la mort, Conrad écrivit à son beau-frère Vadian « Ma mère est rétablie, elle gouverne de nouveau la maison, dort, se lève, gronde, déjeune, querelle, dîne, fait du tapage, soupe et nous est constamment à charge. Elle court, cuit et recuit, rafle, amoncelle, travaille, se tue de fatigue et s'attirera bientôt une rechute. » Tel était l'homme qui prétendit plus tard maîtriser Zwingli et qui se signala à la tête de fanatiques anabaptistes. La providence divine permit peut-être que de tels caractères parussent à l'époque de la Réformation pour faire ressortir par leur désordre même l'esprit sage, chrétien et réglé des réformateurs. Tout annonçait que le combat entre l'Évangile et le papisme allait s'engager. « Excitons les temporiseurs », écrivait Hédion à Zwingli. « La paix est rompue, armons nos cœurs. Nous aurons à combattre contre les plus rudes ennemis. » Myconius écrivait sur le même ton à Ulrich, mais celui-ci répondait à ses appels guerriers avec une admirable douceur. « Je voudrais, disait-il, gagner ces hommes opiniâtres par la bienveillance et les bons offices, plutôt que de les renverser par la violence et la dispute. Que s'ils appellent notre doctrine, qui n'est pourtant pas la nôtre, une doctrine du diable, il n'y a là rien que de naturel, et à cela, je reconnais que nous sommes bien les ambassadeurs de Dieu. Les démons ne peuvent se taire en présence de Jésus-Christ. »